Bonjour, c'est la récré des papous jusqu'à 13h58. Au menu du tourisme, mais minimal, proposé par la tour opérateur Odile Conseil, la peinture et le loup revisité façon Riemayeur par les Jacques, Vallée et A. Bertrand. Et parlons-nous de la même chose aux cultures du malentendu, selon Patrick Beignet.
C'est une sorte de danse macabre qu'elle a dessinée.
Ah bon ?
J'ai tout de suite pensé à l'Apocalypse, les sept cavaliers de l'Apocalypse, le septième sceau, etc.
Ah oui,
c'est
Brigitte Bardot dans le sous. Ah oui.
Quand Margot dégrafait son corsage, vous voyez l'Apocalypse.
Et le DLA au diagnostic littéraire à l'aveugle, avec notamment Eva Almassi dans le rôle glorieux mais risqué de l'expert. Et justement, pourquoi le petit garçon répète toujours « je voudrais voir le cul de ma tante Eva » ?
Ah mais ça, c'est un désir légitime.
C'est très fréquent chez les marquis en plus.
Chez les marquis, quand on est jeune, on explore et on aime bien aller sous la jupe de maman, de la tante ou plus tard des filles.
Françoise Trossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou, un numéro à podcaster sur franceculture.fr. Merci de votre fidélité et un salut amical à ceux qui écoutent pour la première fois. Bienvenue au club. Et avant toute chose, notez sur vos tablettes la date du 3 mars. C'est un vendredi et nous serons en public pour une soirée des papous dans la tête au studio 105 de la Maison de la Radio. Je vous en reparle tout à l'heure. Place d'abord au tourisme. À l'heure où certains rentrent de vacances d'hiver, où d'autres partent en vacances d'hiver, on n'est pas tous dans la même zone, à la neige, pas trop loin, ou au soleil, plus cher. Eh bien moi, je pense à tous ceux qui vivent en ville et ne partent pas, et à qui il serait bon d'offrir une escapade de quelques heures ou d'une journée, dans un lieu proche de chez eux, un lieu où les parfums et les rumeurs de la ville se mélangent, un lieu où il ferait bon flâner, les mains dans les poches, à l'abri de la pluie et du froid, une expérience de tourisme minimale. Se détendre, c'est souvent porter un autre regard, un regard d'enfant qui s'émerveille d'un rien. Patrick Beignet nous avait proposé quelques heures dans ce qu'il appelle le commissariat central. Jacques Jouet nous a entraînés dans le quartier Popincourt. Avec la tour opérateur Odile Conseil, on reste aussi à Paris. Bon, c'est là que nous habitons. Vous nous entraînez où, Odile ?
On s'en va à la station de métro République pour un tourisme minimal et total à la fois.
Oui.
Bienvenue dans la station de métro République. Sur les lignes numéro 3, 5, 8, 9 et 11. Vous l'avez abordé par sa face nord-est, rue du Faubourg du Temple, ou par son entrée sud-ouest, rue du Temple, voire par le nord-ouest en venant du boulevard de Magenta ou de la rue René-Boulanger, ou vous vous y êtes carrément introduit par le centre sur la place de la République, car quoi de plus beau que la République et sa devise ? Enfin, vous êtes là. Bienvenue dans la station République pour un séjour qui satisfera tous vos désirs sportifs, récréatifs et culturels, seul, entre amis ou en famille, pour un séjour qui restera dans votre mémoire comme une expérience unique et multiple à la fois. Vous, madame, qui semblez si dynamique, portée sur l'exercice physique, savez-vous que vous disposez ici de 9783 mètres de couloirs de correspondance et de quais qui vous permettront de pratiquer la course à pied à l'abri des voitures, des crottes de chiens et des giboulées ? Vous, monsieur, qui progressez à petits pas, adoptez les 275 marches qui équipent la station. Dans la montée comme dans la descente, vous pourrez pratiquer un exercice salutaire qui vous fera retrouver une forme métropolitaine. La découverte des escaliers est également idéale à pratiquer avec les enfants qui pourront apprendre à compter en gravissant ou en descendant les marches. En leur faisant monter les escaliers deux à deux, vous pourrez leur enseigner la notion de chiffre pair ou impair, selon. Et en les leur faisant gravir 4 à 4, vous leur apprendrez la notion de saine fatigue. La station que vous avez choisie vous offre en outre de nombreuses activités culturelles. Ici, l'image est reine. Mieux qu'à la maison, seul devant votre téléviseur, venez partager avec d'autres le spectacle des publicités animées sur grand écran qui égayent désormais quais et couloirs. Pratiquez la lecture d'images avec les réclames de 4 mètres sur 3. Découvrez l'univers charmeur, mystérieux ou déjanté des publicitaires dont la créativité enchantera votre séjour dans cette station. Mieux encore, devenez vous-même sujet d'une œuvre d'art unique ou décliné en 4 exemplaires façon Andy Warhol, en utilisant les photomatons qui vous feront aussi d'inoubliables souvenirs une fois rentré à la maison. Vous pourrez aussi, à la Station République, admirer les plasticiens contemporains, n'hésitant pas à utiliser toutes les ressources de la poésie et de l'art graphique pour créer un environnement éphémère souvent de collage ou d'inscription murale d'une absolue contemporanéité. Telle y écrivit récemment « Marianne, ma sœur, de quelle furieuse folie vous eûtes à souffrir un certain vendredi. » Telle autre « Demain dès l'aube, à l'heure où démarre le métro, je partirai. Adieu, n'envoie plus de texto. » Et tant d'autres encore que vous aurez peut-être la chance de voir naître sous vos yeux. Mais à la station République, les yeux ne sont pas seuls à la fête. Ouvrez grand vos oreilles et bénéficiez gratuitement des prestations de groupes musicaux sélectionnés avec soin, qui ont joué devant des milliers de personnes, devant un public qui n'est chaque jour ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Venez vous émouvoir avec l'inoubliable El Condor Pasa, vous trémoussez au son de la lambada, écoutez les immortels de la chanson française revisitée par de jeunes talents. Et peut-être, peut-être esquisserez-vous un pas de valse en entendant celle de Shostakovitch, la numéro 2, entamée joyeusement par un accordéon. Un petit creux, une grande soif? À la station République, vous trouverez tout ce qu'il faut pour satisfaire les envies des petits et des grands, du simple distributeur de boissons et friandises toujours à votre disposition, au vendeur de fruits frais, en passant par la boulangerie Croque-Tout-Chaud, dont la délicieuse odeur de croissants frais titillera votre odorat de bon matin. Mais avant tout, la station République est un lieu où vous pourrez multiplier les expériences enrichissantes. Tous les jours en semaine, vous pourrez participer à d'intenses moments de convivialité. Dans la tranche 7h-8h30 et 17h-18h30, une humanité en mouvement est à vos côtés pour vibrer avec vous dans toute la station. Le samedi, cette plage de convivialité s'étend de 13h à 20h. Le reste du temps, vous bénéficierez de moments plus calmes, propices à la méditation ou à la lecture. Enfin, last but not least, la station République met à votre disposition des véhicules qui vous permettront, une fois encore, de multiplier les expériences. Une expérience olfactive qui vous mènera au lilas ou à jasmin, une expérience historique, Austerlitz ou Solferino, géographique, de Jourdain à Pyrénées, immobilière, vers Maison Alfort ou l'Hôtel de Ville, et tant d'autres encore. Nous espérons vous accueillir prochainement à la station République. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter l'agence Marianne.
Ils vous ont bien payé à la RATP. C'est la prochaine pub, Odile Conseil vous aidera à aimer la RATP, c'est ça?
Non, il n'est question que de la station République.
Alors, je ne la connais pas bien, moi, celle-là.
Non, mais elle gagne à être connue.
Oui, j'ai vu Jacques jouer l'œil de Jacques Louis frisé. Parce qu'il
je la connais très bien. Le nombre de marches, je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur d'une marche.
Nous irons vérifier ensemble, Jacques.
C'est quand même pas une expérience qu'on peut prolonger trop longtemps, parce qu'au niveau du bol d'oxygène, c'est pas top. Non.
Il y a parfois de grands airs qui sont chantés à la station République.
Il y a des gens qui passent la journée.
Ah, c'est beaucoup moins pollué qu'en surface.
Ah oui, vous trouvez?
Oui.
Patrick Beignet, vous avez expérimenté, testé pour nous cette expérience métro République.
Oui, de façon très intéressée, disons. Oui. Je ne suis pas un touriste tête en l'air, disons.
Ah non, sûrement pas, oui.
Odile a brillamment montré qu'on peut faire des tas de choses minimalistes à la station République. Et je me suis dit que c'était l'endroit idéal où perdre mes enfants. Depuis pas mal de temps, je cherche en effet à me débarrasser de mes trois garçons qui me cassent vraiment les pieds, surtout depuis que leur mère est partie. Ils ont 2, 3 et 4 ans. Et si j'attends encore, ça va devenir impossible. Je me demande déjà s'il n'est pas trop tard. Donc, avec ces 5 lignes de métro, ces 4 entrées, ces 9783 mètres de couloirs et ces écrans publicitaires animés, cette station me paraissait idéale pour perdre mes 3 lascars en douceur. J'ai pas réussi. J'ai peur que Gérard, l'aîné, du haut de ses 4 ans, ait compris mon projet. Il m'avait sans cesse à l'œil. Et quand à 3 reprises, entre 17 et 18 heures, j'ai réussi à m'éclipser et que j'allais monter enfin seul dans une voiture du métro ou remonter à l'air libre, une voix à la fois suave et autoritaire m'avertissait par haut-parleur que le petit Gérard et ses frères attendaient leur papa au bureau de la sortie numéro 1. Décidément, va falloir trouver autre chose.
Oui, je crois. Alors, c'est très difficile de perdre 3 enfants d'un coup encore. Hein.
Vous pourriez s'ils faire... ont 2, 3 et 4 ans, je comprends que la maman soit partie.
C'est vrai. Bon, alors vous, c'est votre quartier, comme on l'a dit, République. C'est un métro que vous fréquentez beaucoup. Donc, c'était facile d'y aller pour nous raconter. Dans le métro?
Oui.
Ah oui, je ne savais pas.
Et oui, El Condor.
El Condor qui passa.
qui vit à demeure au métro République. Mais il y a longtemps que je suis là, donc c'est terminé. Je n'ai plus l'accent du tout. L'accent bolivien. Non, le métro République est un endroit de rêve.
Ah oui.
On n'est pas en altitude là où il fait froid. On n'est pas obligé de manger tous les jours des charognes. Personne ne vous tire dessus au fusil de chasse. Les touristes qui passent leurs vacances dans la station vous distribuent leurs restes, qui sont en général bio et abondants. Il y a un concert de flûte indienne du matin au soir, juste assez pour vous dégoûter de nourrir la moindre envie d'avoir le mal du pays. Il n'y a pas plus de lever du soleil que de coucher du soleil. Ça repose, vous savez. Moi, je n'en pouvais plus de voir ces spectacles grandioses, naturels, tous les jours, que les dieux bâclent. Comme je suis le condor tout seul, je n'ai pas d'œufs de condor à couver, de petits condors à nourrir. La seule chose que j'ai à faire, c'est renseigner les touristes qui se perdent dans les couloirs. À ce moment-là, on m'appelle. Aussitôt qu'il y a une question, le haut-parleur m'appelle. Il dit, il faut demander au condor. Le condor sait. Moi, je suis heureux, la saison République. J'y suis, j'y reste. Je ne suis pas El Condor qui est pas ça. Je suis El Condor qui est séquédé. Le condor qui reste. Vive la République. Vive la France.
Il est enthousiaste.
C'est formidable. C'est encore mieux que ce que je vous disais, la station République.
Si j'avais su, j'aurais essayé de lui fourguer mes trois petits condors.
Le piano du pauvre se noue autour du cou. La chanson guimauve, Toscanini s'en fout. Mais il n'est pas chien, il le lui rend bien, il est éclectique. Sonate ou Java, concerto polka, il aime la musique. Le piano du pauvre, c'est le Chopin du printemps. Sous le soleil mauve, des lilas de nos gens. Il recoule un brin à ceux qui se plaisent bien, il fait des avances. Ravel ou machin, c'est déjà la fin. Mais v'là qui recommence. Le piano du pauvre se loue autour des reins. La chanson guimauve, ça va toujours très loin. Car il n'est pas chien, toujours il y revient. Il a la pratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les histoires de cœur finissent en musique. Le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, il n'y a pas plus qui s'en fout. Car on n'est pas chien, on le lui rend bien, on est éclectique.
Joue-le bien machin,
c'est déjà la fin de la guillotine. Le piano du pauvre, c'est pas qui le voyait ou non. La chanson guimauve, on en prend tous un coup. Car on n'est pas chien, on a les moyens et le cœur qui plie. Quand pas des rêves qui sont de son écrit d'instruments de service. Le piano du pauvre n'a pas fini de jacter. Sous le regard fauve des rupins du quartier. Pendant que les barbus du vieil institut posent leur bésicle. Pour entendre au loin le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à baba. T'as pas l'air guimauve, en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon, déjà va perverse. C'est qu'il est pas chien et puis qu'il faut bien faire marcher le commerce.
Tu veux, chérie?
Oh, ma petite dame. Un sou pour une valse, c'est pas cher.
Comment que tu veux aimer les gonzesses quand tu vois les guignols qu'elles se trimballent? Non, c'est vrai que t'avais du goût, vieux, mais elle, je croyais qu'elle en avait aussi.
Le piano du pauvre, par Philippe Léotard.
Les papous, c'est aussi dans ma tête, et sur France Culture.
Et aux papous, il faut noter une date, le vendredi 3 mars. Nous vous invitons au studio 105 de la Maison de la Radio pour une soirée enregistrée des papous dans la tête à 20h. Au menu, le grand nettoyage de printemps et dimanche au jardin. Et quand les papous font le ménage ou jardinent, ça décape. 2h30 avec nous pour le sourire, pour le rire. Vous dans la salle, confortable, chaleureuse. Nous sur scène, 13 papous prêts à affronter toutes les situations. Jean-Bernard Pouy, Jeanne Carillon, Lucas Fournier, Hervé Letellier, Eval Massy, Patrick Beignet, Sophie Divry, Jacques Jouet, Patrice Delbourg, Patrice Comon, Odile Conseil, Gabriel Godard qui accompagnera nos jeux en musique et en chanson, et moi dans ma position de chef d'orchestre de la soirée. L'entrée est gratuite mais réservation indispensable sur le site maisondelaradio.fr, maison de la radio tout attaché en minuscules, et vous cliquez sur l'agenda au 3 mars. Mais soyez sympa, ne réservez que si vous êtes certain de venir, parce qu'on ne peut pas annuler sur ce site. Et quand c'est plein, c'est plein. Et si finalement vous ne venez pas, eh bien c'est dommage pour les autres qui auraient voulu venir. Tous les renseignements à retrouver à la page des Papous du jour et sur notre page Facebook, Le Grand Ménage de Printemps et Dimanche au Jardin avec les Papous. C'est vendredi 3 mars à 20h au studio 105 de la Maison de la Radio. Jacques Vallée, Jacques Abertrand, Gérard Mordillat et Hervé Le Tellier en piste pour les dimanches du dictionnaire Le Petit Rimailleur illustré, notre dico en vers de la langue française. Alors, chaque rédacteur a pour mission de traiter sous forme de poème la définition d'un mot, selon son humeur, mais bien sûr avec le respect des sens multiples que le mot peut comporter. D'ailleurs, un contrôleur veille derrière chaque rédacteur. Au programme, deux substantifs. Le premier, c'est vous qui l'avez choisi, Jacques Vallée. C'est venu tout seul ou après mûre réflexion? C'est pas toujours facile de savoir sur quoi on a envie d'écrire.
Ben, c'est plus le hasard. C'est le premier mot qui m'est passé par la tête dès que j'ai eu un mot à choisir.
Ah
donc,
bon,
je me suis dit, plutôt que réfléchir longtemps, restons-y.
Alors, vous savez, vous allez être contrôlé par Gérard Mordillat. C'est un bon contrôleur consciencieux. Il tourne déjà les pages. Pour arriver au mot peinture, on se sert d'un dictionnaire usuel dont je ne donnerai pas la marque, mais qui est excellent pour les mots. Vous êtes à la peinture, Gérard?
J'arrive.
Hein,
j'y arrive.
Que
c'est plus loin, voilà.
Ouais.
C'est par là. Ah oui, ben voilà, j'ai peinture. C'est assez long, hein, la définition de peinture.
Bon,
oui,
parviendrez-vous à lire la définition tout en écoutant Jacques Vallée? C'est un petit challenge, c'est un peu sportif, c'est ce qui vous attend.
Je ferai comme Jean-Paul Sartre, je surveillerai d'un œil Jacques Vallée, de l'autre dictionnaire.
Donc Jacques Vallée, il se présente comment ce mot peinture dans votre poème?
J'ai fait des tercets.
Oui,
j'avais jamais fait ça.
C'est quoi les tercets? Ça marche par trois, quoi.
Ça marche par trois.
Non, je veux dire, mais est-ce qu'il y a un nombre de pieds obligatoire?
Non, dans un sonnet, il y a des quatrains, il y a des tercets.
Oui.
Et là, j'ai fait un poème rien qu'avec des tercets, de la même rime pour les trois vers du tercet.
Très bien. C'est un choix que va approuver l'autre poète de l'équipe, c'est Jacques Jouet.
Un sonnet fait que de tercets, c'est tout magnifique.
Peinture. Et la première est d'un décor, recouvrir de couleurs ou d'or les pièces et les corridors. C'est la peinture en bâtiment, l'après et le recouvrement pour un nouveau revêtement. Peindre au pistolet, au rouleau, peindre à la brosse ou au pinceau, pochoir, peinture de rinceau, et puis voici l'art de l'image, qui n'est parfois que gribouillage, qui n'est souvent que barbouillage. Chacun son procédé modèle, huile de lin ou aquarelle, fresque, gouache, lavis, pastel. Mais voici dans une planche, la femme nue et toute blanche, sa chevelure en avalanche, et ses hanches en majesté, avec sa chair tout en beauté, car à présent tout est clarté. On admire le coloris, le trait, le léché, le glacis, le trompe-l'œil et le fini. Alors voici l'allégorie, et le genre, et l'académie exposée dans les galeries, et la nature dans la lumière, les paysages, la poussière, et les sous-bois et la clairière. Et l'on voit l'herbe qui verdit, les animaux dans la prairie, on se croirait au paradis. Puis c'est un défilé de toiles, comme en été la pluie d'étoiles et la beauté qui se dévoile, et toujours la couleur offerte. Une tache rose, une verte, comme une porte ouverte. Ce sentiment qu'on a de naître devant les tableaux des grands maîtres et la vie qu'ils veulent transmettre.
Il y avait une tendresse particulière pour le nu de femme. Hein. Vous l'avez remarqué, Jacques
Jouy.
Oui. Bah, chacun peint ses poèmes à travers ses obsessions.
C'est une partie importante de la peinture, vous savez.
Oui, c'est vrai.
Une grande part de la peinture, je me suis aperçu, est faite de Vénus, d'Adam et Ève.
Oui.
Énormément, quand même, de nus.
Oui, vous savez pourquoi ?
Non.
Mais parce que, déjà au XVIe siècle, l'Église recommandait aux époux d'avoir dans la chambre de beaux nus pour qu'au moment du coït, la femme voit de beaux corps et accouche de beaux enfants. C'était une recommandation de l'Église.
C'est vrai ?
Absolument.
Moi, je suis prête à le croire, mais...
La beauté sacrée était la beauté nue dans la peinture du XVIe.
Oui. C'est vrai. Enfin, il y a aussi beaucoup de paysages, quand même, dans la peinture.
Oui, mais
hein, puis de
ça dépend des époques.
De fleurs. C'est un très joli poème. Les tercets étaient bien, non ?
Tercets d'octosyllabes.
Oui, c'est gentil d'avoir compté pour nous. Alors, dites-nous, Gérard Mandilla, j'ai bien vu que vous ne regardiez absolument pas le dictionnaire.
Mais parce que Jacques est passé par toutes les portes qui sont indiquées dans le dictionnaire en plus gras. Et donc, il a parfaitement suivi la contrainte. Notamment, j'ai apprécié, parce que c'était très beau, gribouillage et barbouillage, qui sont les deux mamelles de la peinture. Puisqu'on commence comme ça, même Picasso a commencé comme ça, même le petit Léonard de Vinci a commencé comme ça. Donc, alors, il y a bien sûr les diptyques, les triptyques, enfin tous les tics de la peinture qui étaient là. Alors, on aurait pu s'égarer un peu plus dans la peinture industrielle, puisque Jacques a parlé de la peinture...
revêtement, quand même. Il a parlé de revêtement.
Oui, du revêtement, voilà.
Oui.
On aurait pu parler du minium. Hein, en peinture, on connaît ça, le minium syndical, bien entendu, forcément. Ça va tout seul. Et puis, de la laque, c'est extrêmement difficile, parce que non seulement il faut en passer une couche, ensuite il faut poncer, passer une deuxième couche, reponcer, repasser encore une couche et finir ça au spalter. C'est très compliqué.
Vous voulez pas venir faire des travaux chez moi?
Je vois qu'il est un
vous avez dû faire des CDD à une époque.
Il y a un sens du mot que vous avez oublié. C'est un sens figuré, la peinture des mœurs, la peinture d'une époque.
Ouais.
Voilà, alors vous êtes dans les pinceaux, les seaux, l'huile, la peinture au plomb, sans plomb, verte, bleue, etc. Mais il y a aussi tout cet aspect-là qu'on aurait aimé entendre de la bouche de Jacques et encore plus du contrôleur.
Non, mais parce que...
Dans ça, il a pas tort.
Il y a aussi un qui manque, mais que j'aimerais donner un exemple qui est peinture, là aussi, au figuré, qui est de détester quelqu'un.
Oui.
Hein, et j'ai, d'ailleurs, il y a une citation qui est très bien. Beethoven, je ne peux pas le voir en peinture. Ray Charles.
Oui.
Charles.
Oui.
Et, ou alors c'est Beethoven était tellement sourd qu'il croyait faire de la peinture.
C'est un peu la même chose.
Et qu'est-ce que c'est quand même? Vous avez mentionné la peinture de Rinceau. C'est quoi?
Oui. C'est une peinture qui est faite pour les décorations,
les portes.
Et on dit de Rinceau.
Oui.
Jamais entendu parler. Vous connaissiez, Eva?
Le mot, oui, mais le sens, non.
La peinture de Rinceau, c'est tous les cadres autour des plafonds, par exemple.
Ah.
Et quand
où il y a des moulures.
Voilà.
D'accord. Et les cimaises aussi, alors.
Oui. Moins. C'est moins.
C'est plus les moulures que les cimaises.
C'est plus les moulures. Et quand on fait les fenêtres, c'est du réchampli.
Bon, il a vraiment, je ne sais pas dans quelle boîte il a travaillé. Il a été au rayon du BHV.
C'est Monsieur Ripollin.
Et naturellement, la peinture de Jacques Vallée entre dans notre petit rimailleur, enfin, son poème. Un autre mot postule à la lettre L. Hervé Le Tellier empoigne le dictionnaire de référence pour vous contrôler, Jacques Bertrand, sur le mot « loup ». Un mot que vous aimez bien et que vous avez choisi de définir.
Le loup, au loup.
Enfin, je voulais un peu suggérer, en l'occurrence, mais vous étiez d'accord.
En l'occurrence, mais...
Ouais, ouais.
Au loup.
Au loup.
Les uns chantent la mort du loup, son courage et sa discrétion. Les autres s'écrient « mort au loup », appelant à sa proscription. Mais que serions-nous sans le loup? En avançant à découvert, vieux loup de mer ou jeune loup, oublié le masque au vestiaire, on nous prendrait pour le loup blanc. L'officier de louveterie nous arrêterait sur le champ. Petit loup, serions bien maris. Pauvre louveteau, pour le coup, tombé dans la gueule du loup, avec qui pourrions-nous hurler? La famille des canidés va sans cesse en diminuant. Marsupial est porté manquant. Cervier manque de cervidés. Entre chien et loup, la brebis qui passe l'été dans l'alpage, sur l'écolo passe sa rage. Le loup est dans la bergerie. Suffit-il de crier au loup ? Le berger d'en haut s'égosille. Il doit engager des vigiles. Son chien lit le chien et le loup. C'est ainsi que meurt au matin la chèvre de M. Seguin. Non, ce n'est pas que l'on approuve, mais songeons que c'est une louve, comme celle que l'on redoute, qui fonda l'Empire romain. Cette leçon vaut bien sans doute un gigot d'agneau romarin.
C'est très très joli, hein, le petit loup de Jacquard.
C'est mignon.
Ouais.
Il manque malheureusement deux dimensions marines.
Ah, le loup de mer.
Le loup de mer.
Ah non, je suis désolé. Ah bon, vous ne m'avez écouté que d'une oreille, cher ami.
L'oreille du loup. L'oreille du loup. Alors je regrette, il manque une autre dimension marine qui est le loup, le poisson.
Ah, le loup de
le bar.
Le bar.
Le bar.
Oui, ça dépend des mers. Oui,
ça dépend des mers. Voilà. Que puis-je vous proposer comme citation ? Eh bien, il y en a peu. L'homme est un loup
pour l'homme.
Homo lupus.
Homo homini lupus, comme disent les anciens. Et je vous en propose peut-être une deuxième si j'arrive malheureusement à la déchiffrer.
On va vous acheter une paire de loupes.
C'est une citation de Goemio. C'est bon, le loup au fenouil.
Bah voilà, hein, oui, mais il a oublié d'aller au restaurant, Jacquard.
Ah oui, c'est ça. Bon, sinon, il y a le gros loup, mon petit loup, tout ça.
Ouais. Vous faisiez un geste au micro, Jean-Bernard Pouilly, en vous mettant quelque chose devant les yeux.
Oui, c'est vrai. Loup,
il y était.
Le loup des soirées.
Non,
mais
il y était.
Étrange.
Oui, il y était, là. Oui, il y était.
Alors, mais il est tellement
oublier le masque au vestiaire.
Ah. Voilà.
Voilà, c'est ça.
Mais il est très allusif, Jacquard, bien sûr.
Bon, il manque le loup-garou, peut-être.
Tiens, c'est bizarre parce que...
Vous y avez pensé ?
Le verre a dû sauter.
Le verre a dû sauter,
c'est
oui.
C'est bizarre, hein ?
Ouais. Allez, on prend votre loup. On le garde précieusement. Écoutez France Culture, des papous dans la tête. Jusqu'à 13h58, au micro, Françoise Tressard. Et la bande des papous du jour à suivre, parlons-nous de la même chose. Et le DLA, proposé par Jacques Vallée aux experts Patrice Delbourg, Eva Almassy et Patrick Beignet. Donc, parlons-nous de la même chose, ou culture du malentendu. Le malentendu crée souvent des drames en politique, tout comme dans les histoires d'amour. Il ressemble au mensonge par omission, le pire de tous. Pourtant, si l'on veut jouer avec le malentendu, il devient source de plaisir. Alors, prenez Eva Almassy. Aujourd'hui, elle est en position de force à ce jeu de « parlons-nous de la même chose » puisque c'est elle qui a choisi de quoi nous allions parler. Une idée, un objet, nous on ne sait pas, mais elle, oui. Seulement, elle en a parlé à sa façon un peu énigmatique. Elle s'était penchée sur le papier, a offert son texte à Jacques Vallée, fin décodeur de l'âme humaine, Jacques. Il s'est fait une idée, a écrit à son tour sur le sujet ce qu'il pensait être celui d'Eva, a transmis Odile Conseil et ainsi de suite. Patrick Beignet, en bout de course, a reçu le bébé et avec lui, nous remonterons la chaîne des malentendus. Petits exercices de style à propos d'une certaine chose. Eva, vous êtes donc la première. Vous avez fait un choix sur la forme.
Oui, j'ai mis plein de allitération.
Oui.
Et c'est une comptine.
Très bien, ça se chante ?
Non.
Non, bon.
Disons que vous avez là un gris-gris qui n'est ni gros ni gris, qui a à voir avec les cris. Je dirais même plus avec les cris. Avec le cru et le QI, sans rapport avec le QI. De grâce, point trop gras, la portion congrue, sinon ingrat. Par degrés, les 50 nuances de grès, il vous agrée cet obscur objet secret.
Ah, c'était costaud quand même. Alors évidemment, maintenant on a l'audio, on entend Eva lire son propre texte, elle y met du sens, puis c'est joli, c'est plein d'allitérations, hein, Jacques Jouet.
Oui, mais j'ai trouvé, c'est gros gras, grand grain d'orge.
Oui. Et évidemment, Jacques Vallée, tout à l'heure, pendant la phase d'écriture, vous n'aviez pas la voix d'Eva, vous aviez juste son texte sous les yeux. Est-ce que ça vous a paru transparent? Je ne vous demande pas de donner la chose, mais...
Ça m'a paru assez hermétique.
Ah. Bon.
Mais en réfléchissant, bon, j'ai trouvé quand même... j'ai tiré sur le sujet.
Vous avez tiré sur, mais pas sur Eva Almasi, non.
J'ai trouvé un film,
oui,
et j'ai tiré.
Vous avez développé.
Voilà.
Puis il y a quand même quelque part un peu de la psychologie d'Eva, non?
Oui, tout à
ça
fait.
Ça vous a servi, ça?
Ça, mais les yeux fermés, j'aurais deviné.
Bon. Donc, à votre tour, vous avez essayé de parler de la chose en reprenant le principe d'Eva, c'est-à-dire la littération, le poème.
Non. C'est plutôt des vers libres, disons.
Bon, c'est bien.
Libre.
Oui, comme vous. Hein.
Comme moi. C'est vif. Ça fait des kilomètres et des kilomètres dans un logis. Un logis de roi. Ça règne sur le goût. Tous les goûts sont dans la nature. Ça bruisse, ça jacte, ça cause. Et même ça mycose. Parfois, ça se tire. Parfois,
oh, ça mycose. Mycose à mi-grec.
Oui.
Ah oui,
à cause à moitié.
Parfois ça se tire, parfois ça se retire, ça cuisine, et ça se cuisine, ça lippe, ça lappe, ça lope. Rappelez-vous le père Ésope, ça se charge, ça prend en charge l'universel et l'individuel. Et puis c'est si mignon quand ça se mêle.
C'est un joli texte aussi. C'est charmant. Alors, je ne sais pas, Jacques Jouet, vous aviez cru comprendre pour Eva, là, pour Jacques Vallée.
Non, ça s'obscurcit un peu.
Ça s'obscurcit. Est-ce que Lucas Fournier, vous avez l'impression qu'ils parlent tous les deux de la même chose?
J'ai à peu près compris de quoi parlait Jacques.
Oui.
Quelque chose qui a beaucoup de goût.
Ah bon? Et pour Eva?
Non, toujours pas.
Alors. Toujours pas. Bon, alors, de toute façon, ce n'est pas trop grave. Vous n'avez pas joué avec leurs choses. Mais par contre, Odile passait derrière Jacques Vallée. Elle a eu donc l'écriture de Jacques sous les yeux. Elle a réfléchi à ce que pouvait lui évoquer cette parole d'objet. Et elle est partie à son tour dans l'écriture.
Oui, à force de scruter ce texte, de le renifler, j'ai fini par y trouver un petit souffle d'inspiration. Et j'ai pensé à quelque chose dont je vais vous parler présentement.
Oui.
Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, j'étais là, moi, madame. Quand la cavalerie chargea à Austerlitz, j'y étais. Quand Bardot n'avait besoin de personne, il y avait Sir Harley Davidson et moi. Et je pourrais vous en raconter encore beaucoup d'autres comme ça. Moi, c'est bien simple, vous ne pouvez pas m'éviter, je suis pratiquement partout. Même si je vous agace quand je passe en courant ou que je sors ma scie, vous avez besoin de moi. Certains m'ont mise en boîte, mais jamais on n'y enfermera ma grandeur. Je me niche parfois au creux des gorges, d'où l'on m'expulse sous les applaudissements. Mon nom est petit, mais mon pouvoir est grand. J'ai fait tomber des arbres, j'étais en dépression alors. Et ma mauvaise santé fait stopper les voitures.
Ah, ça se termine comme ça?
Comme ça.
Ah oui, moi je suis très étonnée qu'elle ait autant écrit sur cette chose de Jacques Vallée, parce que personnellement je n'avais rien compris, donc vous aviez compris quelque chose
non,
à Jacques Vallée.
Compris,
même question, Lucas Fournier, Odile Conseil parle de la même chose?
On finit sur une panne de voiture, donc
oui.
Moi je connais très peu de choses en mécanique. C'est peut-être un Delco, non? Je
ou
sais
la,
pas ce que c'est qu'un
la
Delco.
La pompe
mais...
d'alimentation au carburant, peut-être. Alors, bon, Patrick Beignet, vous aviez la glorieuse place, celle de passer derrière Odile Conseil, de n'avoir aucune ligne à écrire pour ce jeu, mais d'avoir à deviner, pas tout à fait deviner d'ailleurs, expliquer pourquoi vous alliez choisir une chose plutôt qu'une autre dont elle aurait parlé. De quoi a-t-elle voulu parler?
À mon sens, c'est une sorte de danse macabre qu'elle a dessinée.
Ah bon?
Une vision d'apocalypse. J'ai tout de suite pensé à l'apocalypse, les sept cavaliers de l'apocalypse, le septième sceau, etc.
Ah oui,
c'est
et Brigitte Bardot dans le sous-arrière.
Quand Margot dégrafait son corsage, vous voyez l'apocalypse.
Mais je pensais à Bergman, au septième sceau de Bergman.
Oui, vous avez quelques petits arguments pour vous raccrocher.
Je n'ai que ça. Hein. Quand la cavalerie chargea.
Oui.
Les cavaliers d'Apocalypse. Hein.
Ah oui.
La mort parle. Je suis pratiquement partout. Je passe en courant.
Hein, toujours, ça, c'est la mort, toujours.
On la met en boîte. C'est le cercueil.
Mais ah,
elle ressort toujours. Ouais. Voilà. Je pourrais encore en dire pendant des heures. Mon nom est petit, mais mon pouvoir est grand. On a l'impression que ça sort de Saint-Jean. C'est vraiment une des formules.
Ah oui, mais si, vous êtes fabuleux.
Je suis fabuleux. Et Saint-Jean aussi.
Je n'aurais jamais pensé à la mort.
Il fallait me demander.
Oui, Lucas, vous y pensiez? Non.
Je n'y pense jamais.
À la non, il vaut mieux éviter. Bon, alors ça, c'est très bien. Alors, maintenant, ce que j'aimerais savoir, Odile Conseil, Patrick Béni, en vous lisant, a dit « Elle pense à la mort ». C'était ça?
Non, ça aurait pu être ça. J'y pense parfois, mais là, précisément, c'était pas ça, c'était l'air.
L'air. L'air, l'Irlande ou...
Non,
l'air.
Ailleurs.
Ailleurs.
Qui peut être l'air qu'on respire et l'air de musique aussi. Quand Margot dégrafait son corsage, c'est un air de musique.
De Brassens, quand la, oui.
Quand la cavalerie chargeait au son du canon, c'était sur l'air du son du canon.
Ah, et Brigitte Bardot.
Et Brigitte Bardot, vous voulez que je vous le chante,
ouais.
Cet air-là? Je n'ai besoin de personne.
Oh, voilà. Allez, David.
Je suis pratiquement partout, c'est évidemment l'air. Je oui. passe en courant, c'est le courant d'air.
Oui.
Quand je sors ma scie, c'est un refrain qui est un crin-crin. Parfois on m'a mis en boîte, ça peut être aussi bien, vous savez, cette époque où on pouvait acheter une boîte de conserve d'air de la montagne.
Ah oui.
Ou les enregistrements qui sont mis en boîte
des airs. On peut maintenant acheter de l'air sous Obama. Il y a un type qui a mis en boîte l'air sous Obama.
Ah, ça c'est formidable.
On ne respirera plus ça.
Non, plus jamais. Et au fond, c'est la pollution qui a fait penser Patrick Béni à la mort. Mais la pollution n'était pas présente dans votre air.
Si, ma mauvaise santé fait stopper les voitures.
Ouais. Ah, mais voilà.
Et ça, c'est comme une vision moderne de l'apocalypse.
Absolument. Ah, mais vous êtes très cohérentes tous les deux.
Je suis très cohérente.
Je peux juste, vous ne dites rien de spécial, Eva, mais juste demander si entre la chose de Patrick, celle d'Odile et la vôtre, il y a un point de jonction.
Avec Odile, oui, notamment Brigitte Bardot.
Ah bon?
C'était une Harley Davidson.
Jacques Vallée, pour que Odile Conseil pense à l'air qu'on respire, vous lui aviez transmis un texte. Est-ce que vous pensiez, vous, à l'air?
Je ne pensais pas à l'air, mais il y a de l'air où se situe ma chose, c'est la langue.
La langue, votre langue dans la bouche?
La langue, c'est vif, ça fait des kilomètres et des kilomètres dans son logis, un logis de roi, c'est le palais. Et la langue fait vraiment des kilomètres et des kilomètres, elle n'arrête pas de bouger,
c'est
même
vrai.
Si on ne s'en aperçoit pas. C'est un stomato qui m'a dit ça.
Faudrait lui mettre un podomètre.
Oui, c'était calculé le nombre de kilomètres que ça fait.
Ouais.
Et bon, ça règne sur le goût, c'est évident.
Oui.
Ça bruit, ça jacte, ça cause, et même ça mycose, parce que vous savez que sur la langue, il y a souvent des mycoses.
Personnellement, je ne sais pas.
Parfois, ça se tire, parfois, ça se retire.
Mm.
Bon, ça cuisine et ça se cuisine, ça lippe, ça lappe. Rappelez-vous le père Ésope, ça se charge, ça prend en charge l'universel, parce que toutes les langues sont parlées, et l'individuel, c'est aussi la conscience de l'individu. Et puis, c'est si mignon quand ça se mêle à une autre langue.
Oh, le baiser, le baiser. Alors, Lucas Fournier, en écoutant Jacques Vallée, vous aviez pensé à quelque chose de goûteux?
Oui, j'avais pensé à Ésope, puisque la langue est la meilleure et la pire des choses, la langue des hommes.
Oui, très bien. Alors, bon, c'est très bien argumenté, ils sont tous très très forts pour décoder le texte qui les précède. On va voir si Jacques Vallée a été très fort pour vous décoder, Eva.
Eh bien, il était très fort, et notamment avec le baiser, puisque mon objet à moi, c'était le bâton de rouge à lèvres. Et donc, c'est vraiment... Il y a même des rouges à lèvres qui s'appellent rouge baiser. Non, mais oui, mais quand les femmes se pourlèchent les lèvres, enlèvent du rouge à lèvres et doivent en remettre.
Ah oui, on est dans le secteur, ça c'est sûr.
De toute façon, on était dans l'oralité pure, donc il n'est pas tombé loin.
Non, mais enfin, vous pouvez justifier deux, trois choses.
Mais bien entendu, ça a à voir avec l'écrit, puisque ça a à voir avec la bouche. Je dirais même plus avec l'écrit. Qui n'a pas reçu parmi vous, messieurs, un petit mot laissé sur la glace de la salle de bain « Je t'aime » avec... Ils n'en ont pas reçu, c'est dingue.
Ils lèvent tous le doigt, sauf Jacques Jouet, quand même.
Un petit message écrit avec un rouge à lèvres. Ah si, ça a à voir avec le cru et le cuit, puisque, encore une fois, en ayant mangé, on est obligé d'en remettre, sans rapport avec le cuit, pour ceux ceux qui diraient qu'on s'embellit parce que par défaut d'intelligence.
On n'a rien dans le ciboulot, oui.
Non. Alors, de grasse, point trop gras, ben ça, c'est désagréable. Oui. Et puis, par degré, les 50 nuances de gris. Alors, ça, c'est à la fois parce qu'il y a des nuanciers et les rouges à lèvres sont numérotés, oui. Mais aussi les 50 nuances de gris, parce que c'était le bâton. Et alors, les coups de bâton dans ce roman 50 nuances de gris, ça donne ma zone.
Ah, bon. Ah, oui,
voilà.
Ah, oui,
vous
oui,
êtes
oui.
la seule à l'avoir
et
lu.
Voilà. Et à la fin, j'ai mis cet obscur objet secret, mais c'est l'obscur objet du désir aussi. Alors, je dois signaler qu'à l'origine, j'avais une autre définition. J'aurais mis un septième de l'arc-en-ciel vous propulse au septième ciel. Mais c'était trop facile parce que donc
ah,
un
oui,
septième,
oui.
Une des
couleurs. Oui, Jacques Vallée aurait tout de suite trouvé. Allez-y, Jacques. Oui.
Non, je me demande le rapport du rouge à lèvres avec le cru et le cuit.
Ben, avec le manger.
Oui, parce que quand on mange, par exemple,
on mange
une sucette, par exemple, ben, quand vous sucez la sucette, le rouge à lèvres part un peu sur la sucette, il y a un contact.
Oui, mais la nuance entre le rouge à lèvres avec cru et cuit.
Oh là là, ça a même à voir avec, Lévi Strauss et l'ethnographie, puisqu'il y a des tas de cultures qui,
Alors,
qui utilisent le rouge à lèvres, y compris les messieurs.
Donc, on est parti du rouge à lèvres, on est passé par la langue avec Jacques Vallée, par l'air qu'on respire avec Odile Conseil, pour arriver à l'apocalypse. Qu'est-ce que vous pensez de cette juxtaposition entre le rouge à lèvres et l'apocalypse, Patrick ?
C'est l'effet boule de neige qu'il y a toujours dans ce genre de jeu.
Oui, c'est le rouge et le noir, là.
Ouais. C'est ça.
On commence par le verbe. Donc,
ça commence par un baiser et puis ça finit mal.
Ah.
Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho.
Para de se entristecer, Leãozinho, o meu coração tão solto. Basta eu encontrar você no caminho.
Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar com um imã.
O meu coração azul vai de toda cor. Quando lhe dura pé, gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba.
Para de se entristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho.
De leão, raio de manhã, arrastando meu olhar como imã.
Jane Birkin, Caetano Veloso. Les papous dans la tête sur France Culture, dernière séquence, le DLA ou diagnostic littéraire. Alors, comme les goûteurs d'eau ou de vin, trois experts vont goûter un bout de littérature à l'aveugle. Rien ne leur sera dit, ni de son époque d'écriture, ni de sa langue originale, ni du mouvement littéraire auquel il appartient, peut-être. Ce morceau a-t-il été prélevé dans un gros roman, une nouvelle, des mémoires, voire une pièce de théâtre? Et le style? Que peut-on dire du style qui nous mènerait sur la piste d'un certain auteur? Parce que tel est le jeu. Décortiquer le texte pour le faire parler et oser, en fin de course, affirmer un nom d'auteur possible avec aplomb, mais pas au hasard. Les experts du jour, Eva Almassi, Patrice Delbourg et Patrick Beignet. Celui qui a choisi ce petit piège littéraire, c'est Jacques Vallée. On vous écoute, Jacques. Vous nous faites la lecture.
La commanderesse lisait dans un coin le bréviaire avec une ligne de statut. L'enfant, tout d'un coup, s'écrie avec la voix aiguë des désirs d'enfant violent.
Je voudrais voir le cul de ma tante. La grand-mère croit avoir mal entendu. La commanderesse ne bouge pas. Couturier commence à être gêné. L'enfant répète plus aigrement « Je voudrais voir le cul de ma tante. »« Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» s'écrie encore la grand-mère en joignant les mains, ne pouvant y croire. Couturier est oublié. Tout à coup, l'enfant tombe comme une balle par terre, haletant. Il crie « le cul de ma tante », comme s'il expirait. Il le crie, il l'exhale, il le râle, trépigne et reste étendu. Couturier s'effraie, dit à la vieille « Mais il faudrait faire quelque chose, il y a du danger. » La vieille mère crie alors d'une voix terrible, solennelle et tragique à sa fille « Madame, le dernier marquis se meurt !» La fille se lève, prend l'enfant, l'enlève, va à la porte et dit « Dieu me le pardonnera !» Couturier reste anéanti. L'enfant, au bout de quelque temps, rentre, honteux, déçu, pleurnichant, « Est né gros, il est noir !» Rien ne me peint l'Espagne comme cette scène. Je trouve cela plus grand que le Cid.
Ah, la fin est très indicatrice quand même. Et étrange ce texte, non, Patrick Beignet ?
Oui, je vois malheureusement pas de quoi la fin est indicatrice.
Bah, on a l'impression que tout ça parle d'un tableau, non ?
Ah, non, il y avait tellement de dialogues, de répliques que je dois confesser de ne pas avoir pensé à un tableau, mais oui. Vous avez sûrement raison.
Inutile de me flatter bassement.
Je suis déconcerté, voilà. Ouais. Je ne dirais pas que je suis sur le cul, ce serait un peu trop, mais tout de même. Jacques va te chercher.
Alors, Jacques, il prend des choses qu'il aime en général, ouais. Non Patrice Delbourg, première impression.
Oui, c'est très insolite. C'est tracé d'une main irrégulière. D'un auteur qui doit être hors gabarit, qui... Ça se rattache à pas grand-chose. Ça me bouleverse pas, ça, j'avoue. C'est très étrange, le choix du patronyme Couturier.
Oui. Qui est Couturier ?
Voilà, ça, c'est interrogeant. Parce que, Bon, Couturier, un peu, ça fait penser à des héros de fiction des années 50. C'est très curieux, Couturier. Et puis alors, de quoi s'agit-il quand on évoque... Une ligne de statut.
Oui, qu'est-ce vous avez le droit de nous le dire ou pas ? C'est quoi une ligne de statut ? C'est pas, ils vont pas sniffer.
Mais non, mais c'est parce que.
on se fait une ligne de statut.
Mais j'avais pas pensé à ça, la cocaïne chez Rodin.
Mais si vous lisez bien, la commandresse lisait dans un coin le bréviaire. Donc. Elle est statique, avec une ligne de statue, elle est comme une statue complètement...
Ça, c'est vrai,
complètement. Bah, c'est comme ça que je l'ai compris.
Merci pour l'explication textuelle. Elle ne bouge pas. Que vous avez peut-être lu ce qui se passe avant et ce qui se passe après, c'est pas sûr, mais...
Non, mais elle ne bouge pas, là.
Moi, j'ai rien compris à ça. Bon. Quant au reste, non plus. Non plus. Et je pense à un cadavre exquis des surréalistes. Monsieur Breton organise une petite séance tire d'un chapeau les phrases avec un personnage, un petit garçon aussi insupportable que Zazie. Et lui, totalement hors métro et hors maîtrise des autres.
D'où ça peut sortir, ça ?
C'est intéressant, votre évocation de sommeil hypnotique, de réunion, effectivement, des surréalistes, où on voit Desnos comme médium, autour de lui, Dali, et là, donc, l'Espagne est présente, hein, Breton, Éloire, Soupeau, Benjamin Perret. Oui, ça, c'est une bonne piste, Eva.
Bravo, Eva, pour le moment.
Si vous n'êtes pas là, surréaliste, frappez deux fois.
Patrick.
Oui, l'hypothèse surréaliste est séduisante, mais un peu, je dirais pas un peu facile, mais enfin, ça permet de faire l'économie de toutes les difficultés. Il y a un côté radical dans ce récit, dont la nature reste sûrement à préciser, qui est surprenant, et moi je m'arrêterais peut-être sur le « il y a du danger ». Il faudrait faire quelque chose, il y a du danger.
Et est-ce que qui c'est... est encadré par trois points de suspension de chaque côté.
Voilà, est-ce que c'est un danger ? C'est un danger psychique ? Je pense que c'est ça, ça nous met dans une sorte de contexte un peu psychiatrique, que le reste du texte permettrait d'admettre tout à fait. Mm-hmm. En août, il y a ce terme, ce titre de commandresse,
oui.
qui n'a rien de psychiatrique, lui, oui. mais qui est un peu surprenant aussi pour la cohérence du texte. Mm-hmm. Là, nous avons des éléments, alors là, je rejoins un peu, effectivement, l'explication d'Eva, un côté hétéroclite, mais en même temps, là, il y a bien le développement d'une obsession au long du texte qui fait qu'il y a une unité.
Mais donc le dernier marquis, c'est le petit garçon.
On dirait, oui.
Oui, puisque c'est lui qui râle, qui expire, hein, qui exhale. Oui. Et ensuite, la fille, c'est-à-dire sa maman, le rassure et après, ça ira peut-être mieux.
Oui,
et alors... Mais ça va mieux, effectivement.
Mais le petit garçon en est déçu. Mais simplement que c'est plus cohérent que ça, parce que le marquis n'est pas tiré d'un chapeau, contrairement à ce que j'avais affirmé tout à l'heure, mais c'est le même petit garçon. Mmh. C'est tout simplement le dernier marquis, ce petit garçon. Il ne faut pas qu'il meure jeune, on ne se le pardonnerait pas.
Et alors pourquoi il répète toujours « je voudrais voir le cul de ma tante »
Ah, mais ça, c'est un désir légitime.
C'est très fréquent chez les marquis. En
oui. Chez les marquis, quand on est jeune, on explore et on aime bien aller sous la jupe de maman, de la tante ou plus tard des filles.
Dans la noblesse, oui. Les petits rejetons veulent toujours voir le cul de leur tante. Mais ça, c'est vraiment, c'est lié à l'aristocratie. Hein. Dans le petit peuple, c'est pas comme ça.
L'aristocratie espagnole, hein, il faut pas... Oui. L'Espagne ne surgit qu'à la fin du texte.
On est très olé,
ça, c'est ça. En Espagne, oui.
C'est quoi le contexte de tout ça? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, ça a l'air d'être un conte un peu volatile, avec des lignes forces quand même, le marquis, la commandresse, et puis j'y reviens, là, comme une obsession couturier.
Il n'y a pas monsieur devant, il n'y a pas de prénom,
c'est un patronyme très étrange,
oui.
Couturier, comme un sésame, comme un passe-partout pour entrer dans un univers irréel. Et puis couturier, c'est un patronyme moderne, couturier.
Oui.
Ça,
oui.
C'est pas les années 20, c'est couturier, c'est, on verrait un peu un personnage, je sais pas, de Malraux, ou je sais pas, un voyageur comme ça. Oui. Couturier, on l'appelle comme ça. Il a pas de prénom, c'est pas monsieur, couturier.
Et pourquoi il est oublié?
Ah ça, j'en sais rien.
Alors, il se trouve où, Patrick Bénisson, dans un asile psychiatrique?
Oui, c'est l'hypothèse que j'ai un peu lancée. Je pense que couturier... qui doit rapporter cette histoire à quelqu'un d'autre.
Ah bon, ah oui.
Il a été témoin, à mon avis. Couturier commence à être gêné. Couturier s'effraie et dit, il se met entre les personnages du texte et nous. Donc, je ne sais pas qui est Couturier. Pour moi, le nom de Couturier n'est pas connoté de façon aussi moderne que pour Patrice.
Oui, il doit y avoir ça chez la biche, non?
Oui, il peut y avoir ça.
La biche est antérieure
à Malraux.
Mais la biche a écrit assez tardivement. Mais ça peut être aussi un personnage de Aimé.
Marcel Aimé.
C'est une bonne idée. Je dis, ça me rappelle un film qui n'a rien à voir. Moi, ça me le rappelle parce que c'est une famille de nobles qui n'a plus d'argent. Ouais. C'est le diable par la queue avec Daniel Darieux, Montand et Marthe Keller. De la commandresse, enfin, un petit peu la celle qui veut détrousser Montand qui jouerait couturier et couturier serait un escroc qui se retrouve là-dedans. Donc, en tout cas, il y a, à mon avis, une intention comique et pas du tout un effet secondaire du texte. C'est vraiment l'effet massif. C'est un texte loufoque écrit pour faire rire.
Oui.
Et c'est réussi en ce sens, en tout cas sur moi. Donc, vous avez trouvé que la dernière phrase éclairait beaucoup. C'est là que moi, je cesse de rire.
Elle n'est pas drôle,
qui
oui.
Est ce... Non, mais aussi, qui est ce jeu qui trouve ça grandiose?
Je trouve cela plus grand que lucide.
Qui est à notre place, c'est un lecteur, c'est un témoin de cette scène.
Ben, c'est celui qui raconte toute l'histoire, toute la scène, mais donc c'est pas Couturier,
non,
comme vous le disiez.
J'aurais dit que c'est à ce jeu que Couturier raconte l'histoire.
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de personnages, en fait. Hein, si vous y voyez clair entre qui est la mère de la...
C'est la fille qui est la mère.
La vieille mère et la grand-mère, en somme.
Ouais,
c'est ça. Et la commandresse, c'est la vieille mère ou pas, non.
C'est la, ah, c'est la trisaïelle, non, c'est, la, c'est un cran au-dessus, non.
La commanderesse serait la tante.
Ah bon?
Pour moi.
Ben, si c'était le cas, la commanderesse devrait sortir en même temps que le petit garçon.
Vous ne voulez pas nous relire ce texte, Jacques Vallée, pour qu'on essaie de le comprendre un peu mieux, quand même?
La commanderesse lisait dans un coin le bréviaire, avec une ligne de statut. L'enfant, tout d'un coup, s'écrie, avec la voix aiguë des désirs d'enfant violent, « Je voudrais voir le cul de ma tante. » La grand-mère croit avoir mal entendu. La commanderesse ne bouge pas. Couturier commence à être gêné. L'enfant répète plus aigrement, « Je voudrais voir le cul de ma tante. »« Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» s'écrie encore la grand-mère en joignant les mains. Ne pouvant y croire, couturier est oublié. Tout à coup, l'enfant tombe comme une balle par terre, haletant. Il crie, « le cul de ma tante !» comme s'il expirait. Il le crie, il l'exhale, il le râle, trépigne et reste étendu. Couturier s'effraie, dit à la vieille, « Mais il faudrait faire quelque chose, il y a du danger. » La vieille mère crie alors d'une voix terrible, solennelle et tragique à sa fille, « Madame, le dernier marquis se meurt. » La fille se lève, prend l'enfant, l'enlève, va à une porte, dit « Dieu me le pardonnera ». Couturier reste anéanti. L'enfant, au bout de quelque temps, rentre honteux, déçu, pleurnichant, « Et négro, il est noir ». Rien ne me peint l'Espagne comme cette scène. Je trouve cela plus grand que le Cid.
Ah, c'est vrai, c'est... la deuxième lecture n'éclaire pas beaucoup. Mais il m'a semblé qu'il y avait quatre personnes.
Si, alors c'est la fille qui est la tante.
La fille est la tante.
Non, fille, à mon avis, la fille est la tante et elle lui montre.
Donc il y a cinq personnes.
La mère.
L'enfant est satisfait. Et oui. C'est bien le cul qui est noir. C'est le cul qui est noir.
Ah bon?
Oui. Ah bon?
Merci, enfin, Jacques Vallée.
C'est très utile, la deuxième lecture.
On voit à quoi vous occupez vos soirées, Jacques Vallée, à lire ce genre de choses. Alors, c'est très mystérieux quand même. D'où ça vient?
Alors, ça pourrait être aussi les utistes. Il écrivait des tas de textes cochons ou pour s'amuser.
C'est pas non plus très cochon,
c'est un tout
ça.
Petit peu cochon.
Non, aussi quand même.
Non, les utistes... Non, oui. Je pense que c'est après. Je pense qu'il faut peut-être rameuter l'hypothèse surréaliste, parce qu'il y a quand même un bric-à-brac ludique, hypnotique, un peu enfantin, des enfantines comme ça, avec une idée de ritournelle, hein, le petit garçon, la commanderesse, le marquis et le cul de la tante. Hein, c'est quand même une ritournelle.
Donc, s'il y en a 300 pages comme ça, on doit s'ennuyer quand même.
Non, je pense que c'est...
C'est
des petits écrits qui sont à côté de l'œuvre principale de l'auteur. Moi, je vois un auteur qui a un itinéraire grave, douloureux, c'est un poète, et qui, par ailleurs, a écrit des enfantines, des fabliaux, comme ça, a travaillé dans la publicité, dans la réclame, puisqu'il y a quand même parfois, vous voyez, je voudrais voir le cul de ma tante, on dirait un slogan un petit peu comme ça, à la radio. Et là, je pense très fortement à quelqu'un qui a travaillé avec Charles Trenet, qui a fait des réclames à la TSF, c'est Robert Desnos.
Ah, vous aussi, Patrick Penet?
Ah, pas du tout, non. Moi,
alors, vous avez dit,
parce qu'on le voyait venir, Desnos. Non, moi, je me replace 50 ans avant.
Oui.
40 ans, disons. Du côté juste, je pense pas du tout que ce soit un texte jutiste, hein. Mais il y a une dimension humoristique dans ce texte, dont on a peu parlé, particulièrement dans la chute. Je trouve cela plus grand que le Cid. Faut vraiment affirmer des choses comme ça sur un ton un peu pète sec, et c'est ce côté pète sec qui me fait penser à un auteur. Rien ne me peint l'Espagne comme cette scène, le jeu où il a sa façon d'intervenir, tout en étant un témoin un peu distant, puisqu'il se contente de notes.
Mais je mange mes ongles, dites-le, hein, non.
Moi, ça me fait penser au journal de Goncourt. De Goncourt, Edmond tout seul, disons.
Après la mort de Jules.
Capable de transcrire des conversations, des anecdotes comme ça, et de ponctuer ça de sa morale. Je trouve cela plus grand que le Cid.
Couturier pourrait effectivement être un personnage des Goncourt.
Oui, un peintre.
La commanderesse aussi, puisqu'ils passaient leur temps dans des repas mondains.
Oui.
Ben non, ça se passe en Espagne, en principe.
La comparaison avec le Cid.
Bah non, mais le petit garçon parle espagnol. Beaucoup de derniers marquis parlent espagnol. Mais je ne pense pas que l'auteur du texte ait lui-même assisté à la scène, puisqu'il y a l'intercesseur qui se nomme Couturier.
Et selon vous, Edmond de Goncourt parlait de choses qui se passaient en Espagne. Enfin, mais non, mais
il raconte ce qu'on lui raconte. C'est un monceau de ragots. Donc se trouve que Couturier rentre peut-être d'Espagne ou d'un salon parisien où il a rencontré une famille espagnole. Hein.
Bon, alors pour vous, Eva Almassi.
Alors moi, je nage totalement. Parce que pour moi, c'est quand même pas une langue du 19e. C'est plus moderne que ça. C'est le découpage des phrases et puis répète plus aigrement tout ça. Non, je ne pense pas au 19e, donc je vais dire, à cause de mon histoire de Zazie masculin, je vais dire que non.
Ah bon? Tête de Patrick Beignet.
Non, mais pourquoi pas? Si j'ose dire, c'est pas bête.
Non, c'est non, juste non. Pour être à peu près cohérente avec moi-même. Avec un texte comme ça, c'est pas facile.
On perd son latin. Couturier peut être un personnage de Queneau.
De Queneau, oui, absolument.
Merci de venir.
En fait, vous voyez que finalement, Couturier n'est pas très daté.
Il est partout, Couturier, c'est dingue. C'est une espèce de personnage passe-partout. Couturier.
Alors, Jacques Vallée, on vous propose, c'est le choix de Patrice Delbourg, Robert Desnos, Patrick Beignet, Edmond Goncourt et Eva Almassi, Raymond Queneau. Alors, est-ce que dans votre liste de trois figure un de ces noms?
Oui, je vais vous dire les trois noms.
Oui.
Théophile Gautier,
oui.
Henri de Manterland,
oui.
Et Né Goncourt. Mais pas
les deux, c'est pas Edmond, c'est les deux. Alors, Théophile Gautier, Henri de Monterland, les Goncourt, Eva Almassi.
Moi, je vais dire de Monterland parce que, par élimination, donc j'ai déjà éliminé les Goncourt à cause de la langue qui n'est pour moi pas 19e tellement. Et puis, moi, Théophile Gautier, il n'y a pas que la date, là. Gautier, il y a toujours des couleurs, je ne serais pas sec comme ça, avec une ligne de statut, tout de suite on aurait les habits. Les habits de la commanderesse, on aura des textures, et il ne peut pas s'empêcher puisqu'il a cet insensuel profondément et c'est un tel styliste alors couturier de la langue.
D'accord, donc il vous reste...
Alors Monterland est styliste Monterland. Aussi, mais est-ce qu'il me reste
un Monterland, un pour Eva Almassi, Patrick Beignet.
Oui, pour Gautier, on peut ajouter que c'est un peintre rentré aussi. Hein, donc, il a un accès au monde des couleurs particulièrement favorable. J'y ai un petit peu pensé, il est auteur d'un voyage en Espagne. Mais pour moi, c'est pas le ton.
Oui, en plus, je l'ai lu, mais c'est pas comme ça.
Non, c'est pas comme ça. Non, il n'y a pas cette... La verdeur chez Gautier, elle existe, mais elle est ailleurs, dans certaines lettres.
D'être la présidente.
Voilà.
Et pas à la commandresse.
Monterland, c'est effectivement un peu tentant, avec le côté pet sec. Hein,
Les petites filles.
Mais bon, je vais rester à l'hypothèse Goncourt, mais avec une incertitude qui fait partie du jeu.
Oui, mais c'était votre premier choix aussi. Hein. Donc, cohérence. Patrice Delbourg.
C'est vrai que quand l'un des Goncourt est mort, le journal s'est détendu. Avant, c'était quand même assez corseté. Et puis après, tout seul, il s'est laissé aller. La commanderesse et puis Couturier, c'est quand même quelque chose qui... Mais je voudrais voir le cul de ma tante. Oui, eh bien, il est capable tout seul dans son coin d'écrire ça. Monterland, évidemment, ça serait le contre-emploi. Le Cid, c'est un piège. L'Espagne, comme cette scène, je trouve cela plus grand que le Cid, non? Non, je vois pas. Bon, ou alors peut-être un petit article de journal dans Candide. Peut-être il a écrit ça pour gagner des sous un jeudi après-midi, non? Non, le journal des Goncourt.
Allez. Eh bien voilà, nous avons deux Goncourt. Ce sont les choix de Patrick Beignet, qui l'avait dit tout de suite, et de Patrice Delbourg. Et un Henri de Monterland pour Eva Almassi. Personne ne mentionne finalement Théophile Gautier. Ont-ils raison?
Ils ont raison.
Donc, pas Gautier, d'accord. Et alors
on est entre Monterland et Né Goncourt.
Ouais.
Et c'est effectivement le journal des Goncourt.
Ben oui. Ah.
Mais c'est les deux, pas du tout Edmond, c'est pas la fin, c'est au début du journal des Goncourt, donc il y a Jules et Edmond. C'est vrai ce que disait Patrick, qu'il recueille des anecdotes au cours des déjeuners, il ne raconte que des déjeuners. Et là, ils sont chez la sœur de Rachel, qui est également comédienne, et il y a là ce fameux couturier qui est assez bavard, qui raconte des tas d'histoires. C'est un ancien journaliste qui s'est reconverti dans le commerce de tableaux. Et il a l'air d'un négrier d'objets d'art, écrivent les Goncourt, toujours porté à faire le compliment sur les gens. Il le déglingue. Il y a un certain mépris quand il parle de couturier. À un moment, ils disent de lui, c'est un aventurier de tous les métiers. Et la scène se passe à Tolède, où couturier est locataire d'une vieille dame de la noblesse, et il vient lui payer son loyer. Mais alors là, il y a seulement trois personnages, parce que le personnage principal, c'est la commandresse, c'est la fille de la vieille dame, donc c'est pas la mère du petit garçon, c'est la tante, et la commandresse, elle est en grande tenue de religieuse, elle porte le costume traditionnel de son ordre, le capuchon, la grande robe blanche avec une traîne et 2 mètres de long, et une grande croix rouge, et le petit gamin insupportable, qui est effectivement le dernier héritier mâle de la maison, il a une dizaine d'années, veut voir le cul de cette religieuse. Et donc c'est pour ça qu'elle dit en partant, la fille se lève, c'est la commandresse, prend l'enfant, l'enlève à une porte et dit « Dieu me le pardonnera ». Voilà d'où l'explication de « Dieu me le pardonnera ». Et c'est simplement un témoignage que les Goncourt donnent de ça, c'est une anecdote.
Et mais parce qu'à l'époque, les religieuses ne portaient pas de culottes.
J'en sais rien.
Ah ça alors.
J'en sais rien, c'est-à-dire, crois que cette commandresse dans l'histoire, elle a été virée de sa communauté, la communauté a été fermée, mais elle vit toujours chez sa mère, dans cette grande tenue d'apparat, elle ne veut pas quitter sa grande tenue d'apparat. Et l'actrice du petit-fils, ça scandalise la grand-mère, parce qu'elle est complètement dépassée, mais tout d'un coup, couturier lui dit, il va mourir s'il continue à faire cette scène. Et donc elle dit à sa fille, puisque c'est la tante, elle dit, faites quelque chose.
Mais donc, il n'y a que 3 personnages.
Oui. Et la mère n'est pas là.
Et chez les Goncourt, ils disent « je » toujours, quand ils sont deux, ils disent « je ».
Oui, ils disent « je » quand ils sont deux. Et on ne sait pas lequel. Enfin, c'est June qui écrit à cette époque. Il dit toujours « je » quand c'est les deux.
Mais ils écrivaient des choses extrêmement passionnantes. Mais comment vous début, avez fait pour tout lire?
C'est tout au début du journal.
Oui, c'est tout au début.
Tout au début.
Alors, écoutez, on a 2 beaux vainqueurs, Patrick Beignet, Patrice Delbourg. Et rappelons quand même que Patrick Beignet l'a dit tout de suite, dès le premier tour, ce qui est très valeureux. Bravo, Patrick.
Jean Rouge.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin, Ghislaine David, Manuel Couturier et Pierre Mine. À podcaster sur franceculture.fr pendant 1 an. Tous les renseignements sur notre émission publique du vendredi 3 mars sont à la page des papous du jour sur franceculture.fr, sur notre page Facebook. Et pour les réservations, direction le site maisondelaradio.fr. On se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres papous dans la tête. Au revoir, passez un bon dimanche bien au chaud, à l'écoute des programmes de France Culture.
Quoi, quoi ? Ah !